Chapitre 3. Têtue, froide et dévote aux vues étroites, vieillotte malgré un visage jeune et des cheveux noirs, tire-bouchonnant sur des traits menus, calmes et roses, Madame d'Agincourt était le type de ces petites bourgeoises figées dans leur impassibilité, intolérantes pour les idées ou les fautes des autres et pétries de vanité. La folie nobiliaire était chez elle à l'état aigu. N'avoir pas le moindre titre à arborer, pas même une modeste particule. Ça avait été la grande douleur de toute sa vie. Elle en avait toujours voulu à son père, brave commandant du génie, de l'avoir fait naître Grémilla, tout vulgairement, et à son mari de lui avoir imposé ce banal d'Agincourt. Si bien que, veuve au bout de 5 ans de mariage, elle avait songé à se remarier pour satisfaire sa marotte. Mais les ducs, princes et marquis, ayant tardé à se présenter, elle avait fini par rester veuve. Et veuve avec un fils. Quel malheur, si au moins c'eût été une fille. Jolie, bien élevée, elle eût pu, avec un peu d'intrigue, la marier à quelque hobereau, insuffisamment fortuné pour s'adresser plus haut. Et cela lui eût offert la consolation d'être la belle-mère du baron de X ou du comte de Z. Mais un fils. Avec le temps, Madame d'Agincourt parvint cependant à se consoler. Ce fils, elle l'aimait passionnément. Elle voulut en faire quelqu'un, le lancer dans une carrière brillante. Le choix de cette carrière ne fut pas difficile. Comment hésiter quand on habite Nancy et que l'on a un parent, ancien inspecteur des forêts? C'était un frère de M. d'Agincourt père, fixé à Lunéville depuis sa retraite. Henri ne pouvait pas mieux faire que d'être forestier. Et comme il avait de l'intelligence, une application à l'étude assez soutenue, il le fut. Quand il sortit de l'école, on l'envoya dans les Alpes, du côté de Briançon. Cet exil dura 2 ans. Ce fut un siècle pour Madame d'Agincourt, qui n'avait jamais quitté son enfant. Aussi, lorsque le garde général reçut l'avis de sa nomination à l'Espart, la mère déclara-t-elle nettement qu'elle le suivrait. Henri ne fit pas la moindre objection. Il avait habitué sa mère à une profonde déférence, à une obéissance absolue. Tous les deux furent donc installés à l'Espart, qui, comme chacun sait, n'est pas l'idéal des villégiatures. Dire que leur séjour dans cet aimable petit trou fut des plus folâtres serait exagéré. Un seul événement important marqua leur passage, la connaissance qu'ils y firent de la famille de Nestalas. Sabarège, la dernière propriété des Nestalas, située sur les territoires de Verteuil et de Sissac, à une petite distance de la Gironde, contenait plusieurs sapinières, quelques boquetaux jouxtant les bois de l'État. Les délimitations entre terres limitrophes sont toujours des nids à discorde. Un élagage de têtards et un tracé de rigoles ayant donné lieu à des contestations, le gentilhomme et le garde général se trouvèrent en contact. La courtoisie réciproque qu'ils apportèrent à régler gracieusement le différend leur laissa la meilleure impression l'un de l'autre. À la campagne, où l'on court après les occasions de se désennuyer, il n'en faut pas plus pour amener des rapports suivis. Madame d'Agincourt, mise au courant des premières entrevues, avait d'ailleurs poussé vigoureusement dans ce sens. Car tout de suite renseignée sur la famille de Nestalas, elle avait flairé une bonne aubaine. Des visites avaient donc été échangées, puis des relations cordiales s'étaient établies. Le comte Urbain de Nestalas, grand vieillard sec, anguleux, à tournure militaire, d'allures un peu Don Quichotte, était le type du parfait gentilhomme, toujours élégant, correct et galant homme. Ses manières plaisaient à la petite bourgeoise qui se trouvait extrêmement flattée d'être l'objet de toutes ses aimables attentions. Et les compliments qu'il lui débitait la grisaient. Car elle était de bonne foi la brave femme, et se jugeant encore capable de faire des passions, sachant M. de Nestalas veuf, elle crut, oui, elle crut sincèrement pendant quelque temps, qu'elle avait enfin rencontré son idéal, cet idéal rêvé depuis 40 ans. Hélas, le vent glacial de la réflexion souffla bientôt sur son illusion et la dissipa. Ce fut la revanche du bon sens. Mais déjà, Madame d'Agincourt était consolée. Un autre projet lui trottait par la tête. Le comte avait une fille. Cette fille, horriblement mal élevée, avait les allures d'un garçon plus que décidé, un minois chiffonné, le langage d'un gavroche débraillé. N'importe, elle avait fait la conquête de la vieille dame, dont l'imagination s'était mise aussitôt à échafauder les combinaisons. Les deux Nestalas étant ruinées, Josiane n'aurait point de dot. Elle ne pourrait donc pas se montrer difficile sur la fortune de son mari. Dès lors, pourquoi Henri ne l'épouserait-il pas? Cette entreprise, d'abord vague, se précisa bientôt, s'implanta, avec la force d'une obsession, dans l'esprit de l'entêté Lorraine. Urbain de Nestalas, bonhomme, ayant moins de perspicacité et de volonté que de galanterie, n'était pas capable de se dépêtrer au milieu des pièges qu'on lui tendait. Madame d'Agincourt, après l'avoir admiré et quelque peu craint, commençait à le dominer. Elle s'aperçut de l'empire qu'elle prenait et résolut de poursuivre jusqu'au bout sa conquête. Ses flatteries, ses habiles manœuvres ne tardèrent pas à recevoir leur récompense. En quelques mois, elle amena le vieux comte à partager ses vues, à soutenir ses projets. Qu'il y eût de la part de gentilhomme beaucoup d'enthousiasme? Non, il serait inexact de le prétendre. Mais, sachant les sacrifices que Josiane serait forcée de faire, il acceptait Henri comme un pis-aller tout au moins. Au surplus, tout portait à croire que cette agitation serait dépensée en pure perte. Les deux jeunes gens, ayant toujours manifesté l'un pour l'autre la plus franche aversion, il semblait bien difficile que le désir de leurs parents se réalisât jamais. Sur ces entrefaites, Henri quitta l'Espart pour être attaché à la conservation des forêts à Bordeaux. Ce contretemps ne démonta pas Madame d'Agincourt. Les Nestalas possédaient un pied-à-terre à Bordeaux, rue du Palais Gallien. Elle choisit son appartement dans cette même rue, presque en face. Malgré cette louable ténacité, le succès de sa combinaison matrimoniale, jusqu'ici douteux, apparut comme de plus en plus impossible. En effet, le jeune garde général, qui jusqu'alors avait été tenu en lisière, commença tout à coup à s'émanciper au contact de la grande ville. Au lieu de passer tout son temps libre à la maison, en tête-à-tête avec sa mère, comme il avait dû le faire à l'Espart, il se mit à vivre dehors, avec une hâte fébrile et non dissimulée d'ailleurs, de rattraper le temps perdu. Il se créa des relations, alla dans le monde, accepta des invitations à dîner et à danser, fréquenta assidûment le cercle. Toute chose qui le retenait loin du logis le soustrayait forcément à l'influence de sa mère. Mauvais présage pour les projets de la vieille dame. Le hasard même s'en mêla et fut contre elle. Dès leur arrivée à Bordeaux, l'oncle d'Henri, M. Albert d'Agincourt, avait écrit à son neveu d'aller voir un de ses anciens camarades de collège, Amédée Chabran, dont la famille serait heureuse de le recevoir. Très lourd à ce moment-là, Henri avait suivi la recommandation sans enthousiasme. Il se trouva qu'on l'accueillit de la façon la plus charmante. Il y retourna avec plaisir, puis avec empressement, et un jour, il s'aperçut que ses visites, qui ne déplaisaient point d'ailleurs, lui devenaient indispensables. Désormais, Madame d'Agincourt pouvait batailler. Elle perdrait son temps. Le cœur de son fils était pris, et pris là où elle n'aurait pas voulu qu'il le fût. Au surplus, le jeune homme n'avait pas cherché à le cacher. Tout de suite, au contraire, il avait choisi très loyalement sa mère comme confidente, quoiqu'il prévît à peu près le mauvais accueil réservé à son aveu. Par extraordinaire, la vieille dame ne se fâcha pas. Elle demanda seulement quelque temps pour réfléchir et prendre ses renseignements, avant de donner sa réponse. Cette réponse, Henri l'attendait encore 4 mois après. Et pourtant, l'opinion de Madame d'Agincourt était faite depuis longtemps. Sans doute, cette demoiselle Lucienne Chabran, bien qu'elle eût comme père un simple industriel, ne lui avait pas semblé un parti trop ridicule pour son fils, car elle avait une grosse dot. Mais elle venait se mettre au travers de ses autres projets, et cela suffisait à la faire mal voir. Dieu sait pourtant si Lucienne s'était donné de la peine pour obtenir un résultat différent, et de combien de prévenances et de gentillesses elle avait entouré la vieille dame à chacune de leurs rencontres. N'importe, la mauvaise impression était produite, et les impressions chez Madame d'Agincourt ne s'effaçaient pas rapidement. Les choses en étaient là quand fut annoncée pour le 27 décembre la soirée de la préfecture. Henri, qui espérait y voir Lucienne en tête-à-tête, voulut avoir auparavant une explication avec sa mère. À la suite de cette explication, qui avait paru la contrarier et l'embarrasser vivement, Madame d'Agincourt avait tout de même promis de poser personnellement et nettement la question aux parents de la jeune fille, au lieu de les pressentir indirectement par une amie commune, comme elle l'avait fait ou avait prétendu le faire jusque-là. Or, le résultat négatif de l'entrevue de Lucienne et du jeune homme était une preuve presque certaine que cette promesse n'avait pas été tenue. Henri en conçut contre sa mère un vif ressentiment que la réflexion ne fit qu'aigrir. Et dès leur première entrevue, le lendemain du bal, il ne put s'empêcher de le manifester. « Allons, qu'y a-t-il encore ?» soupira la vieille dame en faisant tous ses efforts pour ne pas comprendre la véritable cause de la mauvaise humeur de son fils. Et, sans voir qu'elle allait ajouter à ses torts une maladresse, elle imagina une diversion. « Tu vas jeudi à Sabarège pour la chasse ?» Cette fois, Henri faillit éclater. Réprimant avec peine un geste d'impatience, il grommela. « Oui, Gaëtan a tellement insisté. » C'est tout naturel. Je me demande d'ailleurs pourquoi il a fallu te prier. Tu t'ennuies, on t'offre une distraction et tu hésites. Oui, j'hésite, reprit le jeune homme. J'aurais dû, en effet, ne pas hésiter et refuser. Mais enfin ! Oh, de grâce ! Murmura le garde général. Allons, soit ! Ils se séparèrent silencieusement. C'était l'enterrement d'une question qui leur brûlait les lèvres à tous les deux. « Ah, mon cher d'Agincourt, comme vous êtes aimable de n'avoir pas manqué à votre promesse !» C'était le comte de Nestalas, toujours gesticulant, qui souhaitait la bienvenue à Henri. Le garde général sauta de la charrette buggy qu'il avait amenée de la gare et serra les mains du gentilhomme sans empressement excessif, mais sans effusion hypocrite. Le vieillard était si bon homme que l'on ne pouvait lui garder rancune de ses toquades. Des trois hôtes de Sabarège, c'était assurément le seul sympathique. « Et comment ça va depuis l'autre jour » demanda-t-il. « Madame votre mère ?»« Très bien, merci. Mademoiselle Josiane ?»« Parfaitement. La voici d'ailleurs. » La jeune fille s'avançait, vêtue d'un costume de chasse en velours beige, guêtrée jusqu'aux genoux, un feutre noir cavalièrement campé sur ses lourdes torsades de cheveux châtain clair. Et vraiment, elle était presque jolie, sous ce travesti qui seyait merveilleusement à son alerte petite personne. Henri la regarda avec complaisance et la bonne impression qu'il ressentit lui fit pardonner le petit mot aigre-doux par lequel elle l'accueillit. Bientôt apparurent Gaëtan, deux de ses collègues de cercle, puis une autre chasseresse, Mademoiselle Hélène de Richebonne, une amie de Josiane. Et tout de suite, les présentations faites, la conversation devint générale et bruyante, arrachant d'Agincourt, malgré lui, à la mauvaise humeur qu'il gardait contre lui-même, pour avoir eu la faiblesse d'accepter cette invitation. On était rentrés au château. On attaqua le déjeuner, un déjeuner froid de circonstance. La chasse, bien entendu, faisait tous les frais des discussions. Les avis étaient partagés, les opinions s'emballaient, s'égaraient. C'était toujours le verbe haut de Josiane qui tranchait les différends. On sentait que cette petite femme volontaire était l'âme de tout, dirigeait tout dans cette maison. « Écoutez-moi, mes chers amis, tout cela est parlé pour ne rien dire, car il ne s'agit pas de courre le cerf. Cependant, je pense que nous nous amuserons. J'ai fait de mon mieux, nos quatre griffons sont étonnants. Il y a du lièvre en masse et un chassé merveilleux, d'autant plus que nous pourrons suivre sur les bois de l'État. M. d'Agincourt nous garantira de toute tracasserie de la part des gardes. Il n'est pas là pour rien. »
Merci bien, mademoiselle.
Oh, sans rancune.
L'épigramme, néanmoins, avait jeté un froid. Il y eut quelques secondes de silence. Puis la conversation reprit sur les courses prochaines pour passer de là au dernier potin de l'Espard et aboutir enfin à la politique. Josiane, bien qu'elle n'eût pas eu encore le temps, ainsi qu'elle l'avoua, de lire ses journaux du matin, était au courant de tout, avait le mot sur tout, se prononçait sur toutes les questions sans appel. Après quelques mots sur la politique et le dernier scandale du jour, on parla mariage et Josiane traita cette antique institution de vieille balançoire.
« Ma foi, mademoiselle, permettez-moi de vous approuver, » murmura Henri timidement.
Josiane éclata de rire en l'entendant.
« Vous, monsieur d'Agincourt, » s'écria-t-elle, « est-ce une déclaration de principe ou une impression personnelle ?»«
Oh !» répliqua le jeune garde général, « notre philosophie ne fait pas tant de distinctions, en ce sens qu'elle n'aimait guère de thèses générales qui ne s'appliquent à des faits personnels. »
Mademoiselle de Nestala se pinça les lèvres.
Vous ne m'avez pas comprise, répondit-elle, ou je me suis mal exprimée. J'aurais dû dire, de quel droit parlez-vous ainsi?
Mais du droit que possède tout homme en âge.
Justement, votre âge.
27 ans, mademoiselle. Il me semble que cela me donne, pour juger la question, autant de droit que.
Autant de droits que m'en donnent mes 22, n'est-ce pas?
Eh bien non, vous vous trompez. À mon avis, à notre avis, devrais-je dire, car la plupart des jeunes filles qui ont réfléchi raisonnent ainsi, les hommes ne peuvent avoir d'opinion pratique sur le mariage que vers la cinquantaine, lorsque leur fortune réalisée ou de hautes situations acquises leur permettent d'offrir à leur femme tout le luxe qui leur est dû. Le mariage conclu dans d'autres conditions, pour d'autres motifs, est un leurre et une stupidité. Aussi, toutes les jeunes filles, tant soit peu modernes, doivent se méfier des promenades au clair de lune, des soupirs, des effeuillages de marguerites aux bras de petits cousins ou de petits amis, enfin, de toutes ces niaiseries qui ne sont que de la sentimentalité bébête quand elles ne sont pas dangereuses. Les jeunes gens, à l'unisson, firent un geste de protestation. Et Gaétan, qui se piquait de parisianisme, s'écria « Ah, ma chère, tu me rappelles cette chanson de la précieuse Divette, si à la mode l'été dernier. Chez elle, chaque dimanche, jours heureux, elle salue de nouveaux messieurs sérieux. » On rit longuement. D'Agincourt, le nez dans son assiette, ne broncha pas. Quant au comte de Nestalas, il n'avait pas risqué la moindre remontrance. Il était trop occupé, d'ailleurs, près de sa voisine, la jolie Hélène de Richebonne, à laquelle il débitait des madrigaux, avec toute l'exquise galanterie dont il avait le secret. Le brave gentilhomme datait de l'époque où l'on effeuillait encore des marguerites. « Et voilà, » conclut Josiane en se levant, « la discussion est close, n'est-ce pas ? En chasse, maintenant !» Elle donna l'exemple, marchant en avant, entraînant les autres, et lorsqu'on fut au petit bois où devaient être découplés les chiens, elle dispersa son monde, posta les tireurs.
« Je vous recommande cet endroit-là, monsieur d'Agincourt. C'est la meilleure passée. Le lièvre vous filera dans les jambes, par exemple, si vous n'y prenez pas garde. Attention, vous allez vous couvrir de gloire. »
Mais le pauvre garde général, resté seul, s'abandonna bientôt à ses réflexions au lieu de songer à la chasse. Il était là depuis un quart d'heure à rêvasser lorsqu'un bruit léger dans les feuilles mortes le fit tressaillir.
« Sacrebleu, le lièvre ! Josiane m'avait bien prévenu !»
Henri, surpris, jette son coup de fusil au hasard.
« Manqué ! Imbécile ! Ce qu'on va me blaguer ! »
En effet, les autres chasseurs accourent et les colibés vont bon train. Pendant ce temps, le lièvre file toujours, suivi par les chiens. Alors on se disperse, chacun suivant son ardeur ou ses goûts.
et la journée s'écoule, une journée grise et brumeuse d'hiver, dont la monotonie n'est rompue que de loin en loin par l'émotion banale d'une trop facile tuerie. Enfin, la nuit tombe, il est 4 heures, et l'on se hâte vers sa barège. 6 pièces au tableau. Tout le monde sera content, chacun pourra avoir sa part de butin. Puis, les derniers compliments échangés, on se sépare, après d'hypocrites protestations d'amitié et de reconnaissance, des promesses de revoir prochain. 2 heures plus tard, Henri rentrait rue du Palais Gallien. Madame d'Agincourt l'attendait avec impatience. « Oh oh, voilà des victimes !» s'écria-t-elle en jetant les yeux sur le filet que son fils tenait à la main. « Alors, vous avez été heureux et tout s'est bien passé ?»« Mais oui, comme tu vois, » répondit laconiquement le garde général, peu disposé aux confidences. Ce fut tout ce que l'on put en tirer sur les impressions de la journée. Seulement, en souhaitant le bonsoir à sa mère, Henri dit tout à coup « Je t'annonce, mère, que la vie ici m'étant insupportable, je vais demander mon changement. » Et sans attendre la réponse, il entra dans sa chambre. Madame d'Agincourt fut tellement interloquée qu'elle demeura bouche bée, sans pouvoir articuler un mot. À son tour, elle se retira dans sa chambre, en proie de sombres réflexions. Et ce soir-là, pour la première fois, elle eut le vague pressentiment qu'elle s'était peut-être trompée sur la manière dont elle prétendait travailler au bonheur de son fils.